Chapitre 30. Les plus anciennes troupes d'élite de l'Espagne, la Guardia Real, dataient du Moyen Âge. Les soldats de ce corps devaient jurer devant Dieu d'assurer la sécurité de la famille royale, de protéger ses biens et de défendre son honneur. Le commandant Diego Garza, à la tête de près de 2000 individus, était un homme chétif, au teint basané, avec de petits yeux et des cheveux clairsemés qui laissaient entrevoir son crâne pommelé. Avec sa tête de fouine et sa stature modeste, Garza était quasi invisible, ce qui était un atout dans les couloirs du palais. Depuis longtemps, Garza savait que le véritable pouvoir ne venait pas de la force physique, mais de l'influence. Commander la Guardia Real lui conférait une certaine position, mais c'était son sens politique qui avait fait de lui un homme indispensable à Madrid, tant pour les affaires personnelles que professionnelles. En matière de secret, Garza était d'une fiabilité à toute épreuve. Sa réputation de discrétion, doublée d'une rare capacité à régler les problèmes les plus épineux, l'avait rendu incontournable. Mais aujourd'hui, Garza, comme bien d'autres, s'interrogeait sur le devenir de l'Espagne, car le souverain se mourait dans le palais de la Zarzuela. Pendant près de 40 ans, le roi avait régné sur ce pays turbulent. Depuis que la monarchie parlementaire avait été établie après les 36 années de dictature. À la mort de Franco, en 1975, le monarque avait travaillé main dans la main avec le gouvernement pour faire de l'Espagne une grande nation démocratique et progressiste. Mais la jeunesse jugeait les changements trop lents, et pour les vieux conservateurs, tout changement était blasphème. De nombreuses personnalités influentes du pays défendaient encore bec et ongle la doctrine de Franco, en particulier sa vision du catholicisme comme religion d'État et fondation morale de la nation. La jeunesse espagnole, en revanche, s'y opposait farouchement et dénonçait sans vergogne la mainmise d'une religion hypocrite et corrompue, militant pour une séparation définitive des deux pouvoirs. Aujourd'hui, un prince, dans la force de l'âge, allait monter sur le trône et personne ne savait dans quelle direction il allait emmener le pays. Pendant des décennies, le prince Julian s'était acquitté sans faillir de ses obligations protocolaires, suivant les décisions politiques de son père, sans jamais laisser entrevoir ses idées personnelles. Beaucoup d'experts pensaient qu'il serait un souverain plus libéral, mais au fond, personne n'en savait rien. Ce soir, toutefois, le voile serait levé. Après les événements de Bilbao, le roi, trop faible, ne pouvait s'adresser à la nation. Le prince allait donc devoir monter au créneau. Le président et plusieurs membres du gouvernement avaient déjà condamné l'assassinat et avant d'en dire davantage, ils attendaient la déclaration officielle du palais. Toute la gestion politique de cette crise reposait donc sur les épaules de Don Julian. Cela n'avait rien d'étonnant. L'implication de la future reine dans ce drame faisait de cette affaire une patate chaude. C'est le moment de vérité pour le prince Julian, songeait Garza en gravissant le grand escalier qui menait vers les appartements royaux. Il va avoir besoin d'un guide, et avec son père malade, ce guide, ce sera moi. Garza emprunta le long couloir jusqu'à la porte du prince. Il prit une profonde inspiration et frappa. Pas de réponse. C'est bizarre. Je sais qu'il est là. D'après l'agent Fonseca à Bilbao, le prince venait d'appeler de ses appartements pour prendre des nouvelles d'Ambra Vidal. Dieu merci, elle était en sécurité. Garza frappa de nouveau à la porte. Toujours pas de réponse. Inquiet, il ouvrit la porte. Don Julian ? La pièce était plongée dans la pénombre, à l'exception de la lueur intermittente du poste de télévision dans le salon. Où êtes-vous ? Garza repéra la silhouette du prince debout, près de la grande fenêtre. Il était toujours vêtu de la tenue d'apparat qu'il portait plus tôt dans la soirée, lors de ses audiences. Il n'avait même pas pris le temps de desserrer sa cravate. Don Julian semblait pétrifié. « Cette affaire a dû lui causer un vrai choc », se dit le commandant, en tout sautant pour annoncer sa présence. Lorsque le prince parla enfin, il se tenait toujours immobile face à la vitre. Quand j'ai appelé Ambra, elle a refusé de me répondre. Il paraissait plus troublé que blessé. Garza ne savait pas trop que dire. Étant donné la gravité de la situation, Comment le prince pouvait-il songer à sa relation avec cette femme, des fiançailles qui, dès le début, s'annonçaient mal? J'imagine que Mademoiselle Vidal était bouleversée. L'agent Fonseca va vous la ramener cette nuit. Vous pourrez alors lui parler. Et permettez-moi d'ajouter que je suis soulagé d'apprendre qu'elle est saine et sauve. Le prince hocha la tête d'un air absent. On a pris en chasse le tireur, annonça Garza, impatient de changer de sujet. Fonseca m'assure que le terroriste sera arrêté sous peu. Il utilisa sciemment le mot terroriste dans l'espoir d'arracher le prince à ses pensées. Mais celui-ci se contenta d'acquiescer, l'esprit ailleurs. Le président a condamné l'assassinat. Mais connaissant l'implication d'Ambra Vidal à cette soirée, le gouvernement attend votre déclaration. Garza marqua une pause. Je sais que la situation est embarrassante, mais je vous suggère de dire simplement que vous admirez l'indépendance de votre fiancée et que même si elle ne partageait pas les idées d'Edmond Kirsch, vous louez son engagement et son professionnalisme en sa qualité de directrice du musée. Si vous voulez, je vous écrirai le discours. Ce serait bien de faire ce communiqué au plus vite, pour qu'il figure dans les journaux du matin. Julian ne se retournait toujours pas. Je voudrais m'entretenir avec l'archevêque Valdespino, pour cette déclaration comme pour toutes celles à venir. Garza serra les dents. L'Espagne post-franquiste était un État aconfessionnel, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de religion d'État et que l'Église n'était plus censée se mêler des affaires politiques du pays. Mais la proximité de Valdespino avec le roi lui garantissait une influence particulière au palais. De plus, l'intégrisme religieux de l'archevêque se prêtait mal à la gestion d'un événement comme celui qui venait de se produire. Il faut de la finesse et de la nuance ce soir. Ce n'est pas le moment de nous sortir le coup de la colère divine et des flammes de l'enfer. La piété outrancière de Valdespino n'était qu'un miroir aux alouettes. Avant les intérêts de Dieu, l'archevêque ne se souciait que des siens. Jusqu'à présent, Garza pouvait fermer les yeux, mais aujourd'hui que le pouvoir allait changer de main, la présence de l'ecclésiastique était un véritable problème. Il est bien trop proche du prince. Julian avait toujours considéré Valdespino comme un membre de la famille, une sorte de grand-oncle ayant une autorité religieuse. En sa qualité de conseiller personnel du roi, Valdespino s'était chargé de l'éducation morale du jeune prince, ce dont il s'était occupé avec zèle. Il avait surveillé ses précepteurs, lui avait enseigné les doctrines et s'était même mêlé de ses affaires de cœur. Aujourd'hui, bien que le prince eût grandi, le lien restait toujours aussi fort. Don Julian, je pense sincèrement que nous devrions gérer cette affaire tous les deux. Seulement tous les deux.
Ah oui ?
Dit une voix dans l'ombre. Garza se retourna. Valdespino.
Quel dommage, commandant, persifla l'archevêque. Je pensais que vous, plus que tout autre, sauriez à quel point ma présence est nécessaire ce soir.
C'est une affaire politique, pas religieuse.
Affirmer une chose pareille prouve votre manque criant de sagacité. À mon humble avis, il n'y a qu'une façon de réagir à cette crise. Il nous faut rassurer la nation, lui dire que le prince est un homme infiniment pieux et qu'il sera notre digne roi catholique.
Je suis d'accord, et nous veillerons à le mentionner dans son discours.
Et quand le prince apparaîtra en public, il faudra que je sois à son côté, avec ma main sur son épaule, en signe de son lien indéfectible avec l'Église. Cette seule image rassurera bien plus nos concitoyens que toutes vos paroles.
Garza lui lança un regard noir.
Le monde entier vient d'assister en direct à un assassinat sur le sol espagnol, poursuivit l'archevêque. Quand vient la violence, rien n'est plus rassurant que les mains de Dieu.